Et maintenant, c'est l'heure des rendez-vous de midi sur Radio Circa.
Les rendez-vous du midi.
Rendez-vous de midi. 103.5.
Radio Circa en direct sur le 103.5 à Auch, en diffusion podcast sur internet sur www.ruchmania.fr. Nous avons aussi une page Facebook, suivez-nous, Radio Circa, également sur Twitter, tweetez tout ce qui se passe sur le festival à longueur de journée, et puis aussi sur l'antenne de Radio Circa.
Bonjour Sophie, avec nous aujourd'hui Maya Soulas, que nous recevons entre autres pour la sortie de son livre il y a déjà un an, Le Cirque, dans la collection Des métiers, une passion, aux éditions Milan.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Natacha.
Tout d'abord, je voudrais retracer un peu votre parcours, qu'on vous connaisse un peu mieux, qu'on comprenne comment vous en êtes arrivé à être l'auteur des textes de ce livre. Donc vous êtes gersoise,
oui.
D'origine. Vous avez longtemps travaillé dans les librairies, dans le livre.
Oui, j'ai passé une dizaine d'années à Paris à m'occuper de livres pour enfants et de bandes dessinées pour toutes les FNAC de France.
Voilà, et alors à un moment donné, on décide d'arrêter.
Moi, j'ai décidé de quitter Paris, oui.
Voilà.
Ouais, je ne voulais pas y passer plus de 10 ans. Et il a fallu prendre des décisions un peu radicales pour s'extraire de ça, parce que c'était un boulot bien passionnant. Mais je suis effectivement redescendue dans le sud-ouest et ma route a croisé celle de Barreau d'Ével à ce moment-là.
Une compagnie qui est passée là à Circa le week-end dernier.
Une création cette année à nouveau, voilà. Et que les festivaliers de Circa doivent bien connaître, je pense, parce que ça fait quand même quelques années qu'elle est programmée à Auch et ailleurs.
Donc de 2007 à 2010, vous avez été leur administratrice.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça, sur notamment le montage d'un spectacle qui s'appelait Le Sort du Dedans.
Et alors, à l'arrêt de cette fonction, on vous propose de rédiger le texte de ce livre.
Voilà, alors au moment où j'ai quitté la compagnie, les éditions Milan cherchaient à étoffer leur collection à destination des lycéens, une collection qui s'efforce en fait de présenter des mondes professionnels à des jeunes. Ils avaient traité déjà la mode, le dessin et le cinéma dans cette collection-là, donc c'était une collection assez jeune, et ils imaginaient traiter le cirque. Donc ils cherchaient un auteur capable de mettre à portée des plus jeunes ce que c'était que les réalités professionnelles de cet univers-là. Et par concours de circonstances et de connaissances interposées, ça m'a été proposé. Moi, c'est quelque chose qui m'a excitée, parce que c'est assez... C'est assez amusant de se plonger dans un bain qu'on ne connaît pas du tout comme ça, qui est celui de l'édition et de la conception d'un ouvrage.
De l'édition et puis en même temps aussi d'étendre vos connaissances sur le monde du cirque, puisque votre livre n'est pas consacré uniquement au genre de cirque exercé par la compagnie Barreau d'Ével, mais remonte aux origines et couvre tous les métiers, toutes les fonctions du cirque, qu'ils soient traditionnels, dits traditionnels ou plus contemporains.
Oui, moi, ça me semblait important du point de vue des lecteurs de ne pas voir le cirque uniquement par la facette que j'en connaissais le mieux, moi, auteur du livre. Ça aurait été réducteur comme tout, en fait. Parallèlement, pour moi, c'était l'occasion rêvée d'aller rencontrer les familles traditionnelles du cirque. J'avais un alibi en or pour aller rencontrer la famille Grusse, la famille Bouclione, Valérie Fratellini, pardon. Voilà, enfin, c'était un laisser-passer rêvé pour justement approcher une facette que j'avais pas côtoyé du tout dans mes 4 années avec Barreau d'Ével, effectivement. Même si il y a des traits d'union évidents entre les deux univers. Enfin, dès qu'on parle de chapiteaux, par exemple, les frontières sont pas du tout étanches.
Dans ces familles traditionnelles du cirque, qu'est-ce qui vous a plu dans l'approche qu'ils ont du cirque et quel genre de lien vous avez pu tisser avec eux?
Alors, que dire de ces rencontres-là ? Des rencontres très agréables. On est reçus vraiment à bras ouverts dans ces endroits-là. Enfin, notamment, j'ai un souvenir de ma journée avec les Grusses qui était très agréable. Étonnamment, ensuite, ils n'ont pas du tout donné suite à mes demandes d'interview et de texte. Alors que sur le moment, ils m'avaient promis de figurer parmi les portraits de personnalités du cirque. Ensuite, ça a été un silence radio total que je ne me suis jamais expliqué. J'ai jamais pu les joindre à nouveau au téléphone. Bon, voilà, il y a une part de mystère qui ne déroge pas forcément à leur légende. Ensuite, j'ai des souvenirs marquants de par rapport à votre question sur l'approche qu'ils ont du cirque, de la technique et de la prise de risque. Au cirque d'hiver, les numéros qui sont programmés par Bouglione, moi j'ai un souvenir d'une colonne à deux sur un fil à 6 ou 7 mètres de haut, sans aucune protection, avec un matelas de mousse de 10 cm d'épaisseur sur le tour de piste au cas où il tomberait, et les garçons de piste qui sont en dessous, et on sent quand même que voilà, et on n'a qu'une envie, c'est de leur dire mais descendez, on vous croit. Enfin, pour moi, c'était assez difficile à regarder. C'est vraiment une émotion très, très forte qui a une nature très différente des émotions subtiles qui, moi, m'attachent au cirque contemporain. Mais je peux pas nier que c'était quelque chose d'assez fort, quoi. Et je pense que cette dimension-là, ils y sont très attachés. On sent de leur part une vraie loyauté vis-à-vis de cette prise de risque, etc.
Encore une autre question par rapport au cirque traditionnel. Vous-même, en tant que spectatrice de cirque, comment est-ce que vous êtes venue à cet univers-là ?
Comment suis-je venue au cirque en général ?
Au cirque en général. Et est-ce que vous étiez spectatrice, enfant ou plus grande, de cirque traditionnel ?
Assez peu. Assez peu. Non, ma rencontre avec le cirque est surtout le fait du hasard et des amitiés. C'est vraiment une histoire d'hommes, d'amis communs que j'avais avec la compagnie Barreau d'Evel. Et quand j'ai commencé à travailler pour eux, mon bagage de spectatrice de cirque était bien mince. Et si ça peut encourager des gens qui connaissent peu cet univers-là à y rentrer, voilà. Pour moi, ça a été possible. En tout cas, c'est un monde qui accueille assez volontiers les gens qui sont curieux de lui, quoi.
Moi, je voudrais qu'on revienne sur la structure du livre, qui est donc destiné a priori plutôt aux adolescents, donc très didactique, très pédago, avec un découpage en chapitres très clair, mais en même temps, il s'est très, très rempli de plein d'infos, avec beaucoup de portraits.
Oui, il y a un portrait par chapitre pour incarner un peu, mettre les notions que j'évoque en chair.
Donc d'abord le saltimbanque avec un métier très très professionnel, malgré ce qu'on peut en penser peut-être. Et puis après toute la partie des métiers de la diffusion, de la préparation d'un spectacle. Vous étiez administratrice pendant 4 ans, est-ce que vous avez quand même découvert des métiers, des fonctions autour d'un spectacle de cirque ?
Que je n'aurais pas imaginé étant ado par exemple, c'est ça la question ?
Oui, ou en préparant le livre. Est-ce que vous en avez découvert à l'occasion de l'interview
Non, je pense que le fait d'avoir travaillé pour une toute petite compagnie me donnait une vision assez générale des fonctions à occuper. On était 7, nous, à Barreau d'Evel, pour faire tourner ce spectacle. Donc chacun avait une vision très très claire des métiers de son camarade, en fait. Le fait de devoir être très polyvalent, ça nous faisait toucher du doigt les contraintes et les réalités de toutes les fonctions qui sont assumées dans un cirque, qui sont à peu près les mêmes dans une toute petite équipe et dans une très très grosse. Alors c'est sûr que si on prend le Cirque du Soleil, qui est une multinationale avec 4000 employés, on va découvrir des métiers qui sont un petit peu différents, qui sont vraiment de l'ordre du marketing ou de la centrale d'achat. Mais dans les compagnies un peu moins gigantesques, les fonctions sont à peu près partout les mêmes, sauf qu'elles sont assumées soit par une toute petite équipe, soit par une plus grosse. Mais je ne pense pas avoir vraiment découvert des métiers, si ce n'est peut-être... c'est vrai qu'en interrogeant les équipes du cirque traditionnel, j'ai entendu parler des avant-coureurs, par exemple, qui sont les personnes qui vont dans les villes où le cirque va s'installer, une semaine ou 10 jours avant l'arrivée du cirque, pour préparer l'approvisionnement en foin, l'affichage, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas du tout avec le cirque contemporain, puisque c'est un cirque qui travaille sur la base de programmation, avec des structures d'accueil qui se chargent de toutes ces anticipations-là.
Et puis, la fameuse communication, je dirais la pub, plus que du bouche à oreille, de ce cirque traditionnel qui arrive dans la ville le jour même et qui dit, là, avec un mégaphone, voilà, qui dit, voilà, ce soir, vous retrouvez à tel endroit le chapiteau, telle troupe, venez, venez. Ça, c'est assez rare, hein, dans le cirque. Enfin, on ne le retrouve pas dans le cirque actuel, quoi.
Non, mais pour la bonne raison qu'il y a des équipes comme celle de Circa qui font un travail en amont qui est colossal, qui est de faire en sorte que les gens soient au courant de l'arrivée d'une compagnie et d'un spectacle. C'est vraiment pas anodin, hein. Le fait d'arriver à faire connaître l'arrivée d'un cirque, c'est pas le nerf de la guerre, mais si vous avez beau avoir le plus beau spectacle du monde, si les gens sont pas au courant que vous arrivez, vous pouvez avoir un chapiteau vide, quoi. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que dans le temps, les saltimbanques faisaient ce travail-là eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils envoyaient des gens un peu en amont pour préparer la population. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les structures d'accueil se rendent responsables de cette partie-là, et dans ce sens-là, bah, ils sont en bonne partie responsables de la mise en contact du public et des artistes. Et c'est quelque chose de très, très important.
Je voudrais savoir, moi, quel rapport vous avez entretenu avec les autres co-auteurs, hein, co-auteureux, puisque ce sont deux femmes qui ont fait les illustrations, l'infographie, une autre femme, et puis le maquettiste, et puis l'éditeur en général. Voilà, comment ça se passe quand on reçoit une commande, et quelle liberté on a dans le texte et le produit final, finalement.
Alors, ce que je vais dire n'est pas représentatif de tous les schémas de travail dans une maison d'édition, parce que c'est très variable selon le directeur de collection, selon l'ouvrage, selon l'auteur, selon... Bon. Il se trouve que donc là, ça s'inscrivait dans une collection existante qui était déjà formatée, on va dire. Enfin, la maquette graphique de la collection, c'est quelque chose qui est charté. Une charte de la collection qui est écrite, qui est assez stricte, c'est-à-dire que d'un ouvrage à l'autre, la mise en page reste très 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 semblable. Donc moi, mon contrat avec l'éditeur consistait à leur fournir a priori un texte et à eux d'en faire le meilleur ouvrage possible. Dans les faits, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de relations quand même avec le directeur de collection, avec le maquettiste, etc. Je n'ai eu aucun contact physique avec les illustrateurs, bizarrement. Ça a été un peu une surprise pour moi. Mais voilà, je ne sais pas si c'est par souci d'efficacité, pour qu'il y ait moins d'aller-retour possible.
D'influence.
Oui, ou de coupage de cheveux en quatre entre l'auteur du texte et l'illustrateur. Il est vrai que moi, je participais à la définition des demandes qui étaient faites aux illustrateurs. C'est-à-dire que j'aidais la directrice de collection à exprimer aux illustrateurs de quel dessin on avait besoin pour illustrer telle notion ou autre. Et je me suis constatée assez exigeante. C'est-à-dire que j'étais pas forcément prête à faire illustrer un chapiteau avec des pinces qui ressemblaient pas à des pinces. Et peut-être que si on avait été en direct, l'illustrateur et moi, j'aurais fait quelques tours de piste supplémentaires par rapport au fonctionnement sans se connaître, où c'est le directeur de collection qui finissait par trancher à un moment et dire, bon, là, ça convient, on ne va pas plus loin dans le perfectionnisme, quoi.
Et le plan, là, vous avez eu une liberté, ou c'était votre manière à vous de travailler plus facilement, de distinguer à ce point les types de métiers?
Non, alors le sommaire, il a été défini par moi simplement dans la contrainte de faire une vingtaine de chapitres, puisque c'était le format de la collection.
Charte,
voilà. Le principe de conclure chaque chapitre par un portrait fait partie de la collection aussi. Mais le contenu du chapitrage, c'est moi qui l'ai défini, et là-dessus, l'éditeur n'est pas tellement intervenu, en fait. Alors, soit ça lui est convenu du premier coup, soit ils avaient envie de laisser l'auteur... décider de tout ça. Non, ensuite, alors ce qui a été assez différent de ce que prévoyait le contrat aussi, c'est le fait que je travaille énormément sur le choix des photos. l'éditeur, ces éditeurs-là, par exemple, qui sont des éditeurs... Milan, c'est un éditeur qui a quand même un catalogue très important et qui publie beaucoup, beaucoup de titres par an. Par souci d'efficacité, encore une fois, ils travaillent beaucoup avec des agences de photos. Et ils achètent dans des photos qui choisissent. Alors, jusqu'à il y a assez peu de temps, ils avaient des iconographes dans chez ces éditeurs-là. C'est un métier qui a été mis à mal par Internet et la possibilité de regarder les catalogues des agences sur Internet. Et donc les photos qu'ils trouvaient, eux, au départ, ne connaissant pas tellement l'univers du cirque, étaient essentiellement des photos de cirque traditionnel, des photos de numéros ou des photos de cabaret. Voilà, les agences, elles disposent surtout de photos de ce type-là. Et moi, j'aurais été vraiment frustrée, je crois, de pas du tout voir apparaître la qualité des compagnies que j'avais pu croiser. Ils ont presque tous des beaux boulots de photos autour de leur travail. Et je trouvais ça trop dommage de pas s'en servir sous prétexte que les photographes en question n'étaient pas plus connus que ça et pas référencés dans des grandes agences, etc. Et moi, en connaissant quelques-uns, moi, je les ai contactés et puis on a regardé dans leur fond de photos s'il n'y avait pas du matériel un peu plus riche, quoi, un peu plus précis. Et voilà, du coup, ça a été, finalement, j'ai passé presque plus de temps à choisir des photos qu'à écrire le texte.
Justement, combien de temps on met pour faire un livre aussi conséquent et riche?
Alors, le texte de mémoire, parce que j'ai pas répertorié ça, mais je crois que j'ai mis un peu plus de 2 mois à écrire le texte. On va dire 2 mois et demi. Et en revanche, alors, j'ai commencé à travailler dessus début 2012 et il a été publié en début décembre, je crois, 2012, quelque chose comme ça. 2011.
Non, 2010, parce qu'il est sorti en 2011.
Non, 2011.
Début
2011, il est sorti en fin d'année. Et finalement, durant tout le temps qu'a duré cette préparation-là, j'étais sollicitée par l'éditeur tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous commencez à travailler dessus et le moment où vous rendez votre, ce qu'on appelle le manuscrit, il se passe assez peu de temps. Mais ensuite, il y a tous les allers-retours de correction.
Il y en a eu beaucoup ?
C'est assez long, mais... on est très rassuré en fait de savoir qu'il y a des professionnels qui travaillent sur la correction. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait peu d'ingérence de leur part. C'est-à-dire que parfois, ils demandaient de retravailler un paragraphe parce qu'il était trop confus. Mais c'est tout à fait légitime. Enfin, c'est important qu'un adolescent qui ne connaît pas du tout le sujet puisse rentrer dans les phrases assez facilement. Après, il y a évidemment le côté orthographique aussi, et on est bien content d'avoir un filet de sécurité avec un professionnel qui connaît par cœur toutes les règles de ponctuation, de typographie, et qui vous évite de faire des coquilles. Bon, il en reste toujours, hein, des coquilles, c'est la loi du genre aussi, il en reste quelques-unes. Mais...
Et puis il y a les relectures, il y a combien de relectures ?
En gros, un paragraphe a été relu 3 fois. En moyenne.
À peu juste près. 3 fois.
Ouais. Mmh. Ce serait interminable sinon, je pense. Mmh. Parce que c'est des relectures assez pointilleuses quand même. Et 3 fois, c'est déjà pas mal.
Alors, est-ce qu'après la sortie, vous avez eu à présenter ce livre en milieu scolaire, par exemple, puisque c'était le public visé, ou alors est-ce que vous avez aussi été le présenter devant des artistes, ou est-ce que vous l'avez envoyé à des compagnies avec lesquelles vous aviez travaillé pour l'écriture du texte ?
Alors, les compagnies qui apparaissent dans le livre l'ont toutes reçu. mais pour l'anecdote, ça a été quelque chose que j'ai eu un petit peu de mal à obtenir de l'éditeur. Moi, ça me semblait très important que tous les artistes apparaissant dans le bouquin aient l'occasion de s'y voir, et la moindre des politesses. Mais ça ne va pas forcément de soi pour un éditeur qui fait autant de titres par an. Et voilà. Sur le principe, c'était d'accord. Et puis après coup, je me suis aperçue que la liste que je leur avais donnée n'avait pas été tout à fait bien employée. Et il a fallu que je revienne à la charge pour que chacun le reçoive. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui sont pas du tout représentatives de l'ensemble des, ni même de l'ensemble des bouquins de Milan. Hein. Là, on n'est pas dans des ouvrages qui sont des très gros enjeux pour eux, parce que c'est des sujets assez pointus qui vont concerner relativement peu de gens à leur échelle. C'est tout est une question d'échelle, mais voilà, c'est des collections qui sont relativement confidentielles de leur point de vue, donc ils peuvent pas y apporter exactement le soin qu'ils apporteraient à quelque chose qui est un très très gros enjeu pour eux.
Et si on n'était pas venu vers vous pour une commande, est-ce qu'à un moment donné de votre parcours, vous auriez pu avoir cette idée d'écrire sur le cirque ?
Je ne suis pas sûre que j'aurais eu la témérité de me prétendre auteur, parce que c'est un pas à franchir qui demande un petit peu d'assurance, quoi. Mais, non, mais par contre, le fait qu'on m'en donne l'occasion, c'était un grand bonheur. Je me suis précipitée dessus, j'étais vraiment ravie qu'on me donne cette occasion-là. Après, est-ce que je l'aurais fait de moi-même ? Difficile à dire, mais je pense pas. Peut-être pas sur ce sujet-là.
Et s'il y avait une suite à imaginer, quelle serait-elle ?
Alors, moi, je connais... Il y a un autre univers de création que je connais bien, qui est la bande dessinée. Donc voilà, ça peut m'effleurer de temps en temps d'avoir envie de partager ce que j'ai compris... par écrit, sous forme d'ouvrage, mais c'est très flou, hein, je vous dis ça. Du coup, ce ne serait pas du tout une suite au métier du cirque.
Et donc, il y a une grande cohérence dans votre parcours, finalement, puisque vous, après avoir été dans le monde des livres qu'on vend, après en avoir écrit, maintenant, vous êtes à la Maison des Écritures de Lombez, chargée de mission.
Mais c'est tout. oui, alors c'est vrai que je fais un peu des allers-retours entre l'univers du livre et l'univers du spectacle vivant. Et il se trouve que voilà, là, je m'occupe d'une association à Lombez qui dispose d'un appartement dans lequel des auteurs peuvent venir travailler sur des manuscrits. Mais qui sont des manuscrits de création qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut lire dans mon bouquin, moi. C'est-à-dire que ces gens-là ne viennent pas écrire sur commande. C'est généralement des auteurs de fiction, alors de toutes sortes, de toute nature. Ça peut être du roman, mais ça peut être de la poésie, du théâtre, de la bande dessinée, des contes pour enfants, enfin j'en passe. C'est très ouvert. Mais voilà, c'est un outil de soutien à la création dans le domaine de l'écrit. Un peu de la même façon que Circa peut être un outil d'aide à la création dans le domaine du cirque. Donc je retrouve certaines réalités que j'ai pu connaître de l'intérieur comme compagnie résidente dans le spectacle vivant, en essayant d'accueillir du mieux possible les gens qui voudraient venir travailler à Lombez.
Pour finir, comment la profession du cirque, les professions du cirque ont reçu l'existence de ce livre ?
Tous les retours que j'ai eus étaient bons, notamment dans le sens où ça semblait combler une sorte de manque. Et moi, j'avais vraiment ressenti ça quand on avait accueilli dans notre compagnie des jeunes, entre guillemets, stagiaires, des jeunes qui venaient se frotter à cette vie itinérante en chapiteau, camion, caravane, etc., qui venaient passer un mois, quatre mois avec nous pour travailler l'acrobatie avec Camille et Blaye, éventuellement en échange d'un peu de garde d'enfants, comme ça se fait dans les compagnies de cirque parfois. Ces gamins, ces jeunes-là avaient vraiment mille questions à nous poser, et c'est vrai que j'avais jamais croisé d'ouvrages qui répondent un minimum à leurs questions. Et je me disais du coup que ceux qui avaient la chance de passer du temps avec nous ou avec une autre compagnie avaient trouvé réponse à leurs questions, mais que pour les autres qui n'avaient pas cette chance-là, ça pouvait être utile de pouvoir lire au moins un début de réponse quelque part.
Oui, parce que le livre a beaucoup d'annexes qui sont des adresses d'écoles, des sites web sur lesquels on peut se renseigner. Il a un côté très pratique aussi.
Oui, alors j'ai essayé effectivement de recenser au maximum les lieux de formation et les lieux d'information que pouvaient trouver les jeunes, parce que mon bouquin, il est caduque forcément assez rapidement. C'est-à-dire que les choses évoluent rapidement, et c'est vrai que s'ils peuvent se tourner vers les lieux de formation capables de les orienter, c'est quand même mieux.
On rappelle le nom du livre, Le cirque des métiers, une passion, donc écrit par Maya Soulas avec Elisabeth Pesé, Caroline Donadieu, aux éditions Milan Presse,
sorti en 2011. Et on vous remercie d'être venu jusqu'à nous.
Avec plaisir.
On va enchaîner avec une interview de Bruno Brisson par Bastien au sujet de son festival Musique à la rue. Bastien lui demande pourquoi le cirque dans sa programmation de festival.
De l'association Musique à la rue qui organise depuis 23 ans un festival dans les Landes qui a lieu tous les ans au 15 août pendant 3 ou 4 jours. Et dans ce petit village de 600 habitants, par exemple l'été dernier, ce sont 45 000 festivaliers qui sont venus écouter 85 groupes de musique et compagnie qui se sont produits pendant les 4 jours du festival.
Je vous ai croisé partout dans tous les festivals, aussi bien au Francophonie de La Rochelle, à Pause Guitare, à Albi et maintenant au Festival Cirque à Auch. Alors qu'est-ce que vous faites ici ?
Ici on vient, comme disent certains, faire son marché, même si le mot est un petit peu dur parfois pour les artistes. On vient surtout essayer de trouver des propositions artistiques qui entrent dans la ligne de programmation de Musique à la rue.
Ici à Cirque, quel est votre quotidien ?
Ben, le quotidien c'est surtout d'aller voir un maximum de choses. Donc d'aller voir des représentations de compagnies qui ont déjà, je dirais, pignon sur rue. Et aussi, je suis très intéressé par tous les spectacles des écoles de cirque européennes. Alors nous allons, je pense, arriver à les faire tous, parce qu'on y voit vraiment de grandes différences d'esthétique. Et là, je dois dire que depuis le début, je suis quand même plus sensible aux esthétiques, c'est un peu dommage, mais des écoles qui ne sont pas les écoles françaises. Alors je ne sais pas si c'est parce que... Donc voilà le quotidien, voir un maximum de spectacles.
L'idée, c'est de surprendre.
L'idée, c'est de surprendre, et dans ce type de proposition, c'est d'émouvoir. Quoi. Parce qu'on n'est pas sur, de la musique où il va falloir épater, en mettre plein les yeux au niveau des jeux de lumière, etc. Là, on est sur vraiment une rencontre du spectateur avec une émotion, et c'est quand même assez magique quand on a un visage qui va passer, d'un sourire à presque aux larmes à des moments sur un spectacle. Et c'est ça, et là on a gagné, quand on voit ce public dans cet état-là.
On va recommencer. À l'époque du musical, le cirque, c'était la première partie du spectacle. Quelle est la place du cirque aujourd'hui à Musique à la rue ?
La place du cirque à Musique à la rue, c'est une mise en bouche. Alors effectivement, c'est absolument indispensable de le voir dans cet ordre-là. Ça permet, à l'esprit de s'ouvrir, de s'égayer et d'avoir vraiment une grande liberté pour affronter, après, les fins de nuit musicales. Mais on est vraiment dans le domaine du sensible avec ce type de programmation. Je pense qu'on ne peut jamais avoir en musique la même sensibilité, la même émotion que sur un spectacle de cirque ou sur un spectacle de théâtre si l'on n'est pas soi-même musicien. C'est un petit peu le constat que l'on fait, c'est-à-dire que les très grands concerts vont être perçus avec beaucoup d'émotion par des musiciens. Alors que, eh bien, sur 45 000 festivaliers, on n'a pas 45 000 musiciens. Et sur les spectacles de cirque, on peut très bien être véritablement touché, même si on n'est pas artiste de cirque. Je suis le premier à être très touché par des spectacles. Je suis absolument incapable de faire la moindre pirouette.
Pour finir, la recette magique pour une programmation.
La recette magique pour une programmation, la nôtre, c'est de travailler à plusieurs. Parce que si l'on se fie à une seule esthétique, on risque vite sombrer dans une routine. Donc Musique à la rue, nous travaillons avec 12 personnes sur la programmation. Et je peux vous dire que c'est dans des échanges sur des avis artistiques de spectacles où l'on fait toute la richesse et où l'on va faire le bon choix de programmation. Parce qu'un spectacle que l'on n'a pas aimé, lorsqu'on va avoir 5-6 personnes qui vont nous dire « Écoute, non, si, ça c'était bien, moi j'ai eu beaucoup d'émotions, c'est parfait », on se remet complètement en question. Et c'est ça, la bonne programmation, c'est se remettre chaque jour en question, dès qu'on va voir un spectacle, pour y arriver, vierge comme un petit enfant, et à prendre l'émotion de plein fouet pour pouvoir l'apprécier sans avoir d'arrière-pensée. C'est le secret, on a trop souvent de codes dans le milieu du spectacle lorsque l'on va voir quelque chose. Et non, il faudrait pouvoir se prendre une bonne douche intellectuelle avant de rentrer dans une salle de spectacle.
On va rentrer dans la salle de bain, donc merci à vous.
Merci, à bientôt.
Bruno Brisson, directeur du festival Musique à la rue, au micro donc de Bastien. qui répondait à la question pourquoi le cirque dans sa programmation. On va continuer cette émission en musique avec La rue qui est à nous.
Get a new
Maria Maria.
Non so eu che sto da roi, e la roi che non sa.
Revons la sourde oreille, en avant la musique. Chauffe, chauffe, chauffe le soleil, souffle un vent de panique.
Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, c'est eux qui sont la roi, et un roi qui nous sait.
Abracadabra, le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir.
Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, c'est eux qui sont la roi, et la roi qui est ça. Les gosses sur les épaules, les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partager notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, c'est eux qui sont la roi, et un roi qui est ça.
Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile.
Et grave dans notre voix, l'empreinte d'une goutte de pluie. La chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, c'est eux qui sont dans la roi, et la roi qui est dans ça.
Non so where it's all about.
Radio Circa 103.5 en direct au Cirque, le centre de l'innovation et de la recherche circassienne à Auch. Durant toute la durée du festival, donc jusqu'au 4 novembre, Radio Circa émet sur le 103.5, mais aussi diffuse sur internet www.ruchmania.fr. Nous avons également une page Facebook et Twitter. Nous avons aussi un répondeur sur lequel vous pouvez forcément nous laisser des messages. Au contraire, ils seront même bienvenus. Ce répondeur, c'est le 05 62 61 65 50. Si vous laissez des messages sur ce répondeur, ils seront diffusés à l'antenne. Et puis il y a aussi le phonomaton, hein, c'est un lieu d'expression au sein du cirque. Il va falloir le trouver, c'est juste derrière l'accueil, entre le bar du cirque. Et là, si vous rentrez dans ce phonomaton, vous pouvez vous faire photographier la voix et nous dire, je ne sais pas, tout un tas d'impressions sur le festival, sur le cirque, actuel ou moins actuel.
On passe maintenant à une rencontre effectuée par Pêche avec Jean-Paul Pérez, qui est de l'ONDA, l'Office national de diffusion artistique, une association à but non lucratif créée en 1975, subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication, et qui encourage la diffusion sur le territoire national d'œuvres de spectacles vivants qui s'inscrivent dans une démarche de création contemporaine soucieuse d'exigences artistiques.
Le terrain est un petit peu serré, on se retrouve beaucoup, c'est un peu la particularité, beaucoup d'équipes. Alors c'est vrai que nous, on fait des choix, il faut être clair, on fait des choix, c'est-à-dire que notre boulot, nous, c'est d'aller faire ce qu'on appelle du repérage, d'aller voir, de découvrir pour ce qui est des plus jeunes équipes. Mais on n'est pas que dans les jeunes équipes non plus, mais enfin voilà, on suit comme ça un peu l'actualité dans les différentes disciplines que j'évoquais tout à l'heure. Et on essaie soit légèrement, des fois de devancer au sens où on est des fois à l'origine un peu vraiment des embryons de spectacle, soit parce qu'on a rencontré un jeune artiste comme ça, ou alors dans un spectacle déjà qui sort, mais on va conforter en parlant. Alors quelle méthode on a ? Nous, d'abord c'est l'information. C'est l'information comme on l'a fait hier dans cette réunion ici dans le cadre de Circa autour du cirque, c'est-à-dire c'est informer les partenaires de l'existence de certains projets. Et puis d'autre part, il y a de l'information générale, il y a de l'information particulière, les gens, on s'appelle. C'est vrai que l'ONDA a une place, on est connu, reconnu, donc les programmateurs et responsables de lieu, on les croise, on discute, on en parle, on a donc les réunions thématiques comme celle que j'évoquais, puis on a des réunions pluridisciplinaires aussi d'information, plus tout un tas de canaux. Voilà. L'objectif pour nous, c'est de faire savoir que tel spectacle mérite particulièrement une attention. Voilà. Donc c'est vrai qu'on fait des choix, mais on les assume après. Quoi, voilà. Et après, l'aide va arriver Ultérieurement, on reçoit les programmateurs qui nous font part de leur saison, ils nous font part de leur saison, et à l'intérieur des saisons, on fait des choix sur des artistes qui nous paraissent soit plus, qu'il faut vraiment défendre parce qu'on les connaît moins, etc., etc. Donc il y a tout un pan aussi qui est important de soutien comme ça à la création, à la jeune création aussi. Renouvellement des formes, etc., etc. Voilà. On ne peut pas être partout de toutes les façons, ça n'aurait plus de sens non plus.
Renouvellement, soutien aux jeunes compagnies, ce sont deux critères forts pour vous de soutien aux artistes.
Absolument, c'est vrai que... Ben, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un artiste, tant mieux, s'il trouve sa voix, sa reconnaissance, et ben, tant mieux, on aura participé à notre place, à l'existence de cet artiste. Mais après, il y en a d'autres qui arrivent, c'est normal, d'autres générations. Et nous, c'est vrai qu'il faut être là, il faut arriver à ce moment-là pour suivre, pour essayer aussi de qu'on en parle, de les faire connaître, etc. Et renouvellement des formes, parce que c'est vrai que ça fait partie de nos missions, c'est écrit noir sur blanc, comme on dit dans le cahier des charges, parce que c'est vrai que notre attention sera plus vers des artistes qui prendront des chemins un peu de traverse ou qui tenteront des aventures un peu plus difficiles, peut-être, etc. Et que là, effectivement, la prise de risque en termes de artistique pour pour l'acheteur potentiel, c'est vrai que là, on soutiendra aussi des formes comme ça, un peu plus moins évidentes, comme on dit, à présenter à un public. Quoi. Ça, c'est important aussi pour nous, bien sûr. Voilà.
Alors, il n'y a pas de critères a priori de forme. Je veux dire, aujourd'hui, un Joanne Le Guilherme avec son chapiteau, par exemple, alors c'est pas un jeune artiste, mais ça peut être de jeunes spectacles d'un artiste confirmé. Oui. Et c'est pas pareil qu'un solo qui peut se jouer en frontal d'un théâtre. Donc, il vous faut connaître aussi, peut-être, pour faire vos choix, ce qu'il est possible de produire sur le territoire national dans les lieux que vous connaissez.
Oui, alors c'est vrai qu'on essaie d'avoir la connaissance. Alors on ne prétend pas connaître tous les lieux par cœur, etc. Les directeurs et directrices d'établissements connaissent aussi leur territoire, savent très bien ce qu'ils peuvent mener comme action, etc., etc. Mais par contre, c'est vrai que nous, on essaie, dans la mesure du possible, d'apporter un plus, c'est-à-dire de se dire que à tel endroit, peut-être je vais plutôt parler de ce spectacle ou d'un autre spectacle, etc. Quant aux formes, on n'a pas d'interdiction, ni sur des formes importantes. On n'a aucun interdit, nous. Alors, Joanne Le Guilherme, que vous citiez, artiste, donc, il n'a pas besoin de nous dans l'absolu parce qu'il a une reconnaissance. Pour autant, c'est vrai que, par exemple, cette année, on va aider sur... une aide sur une tournée particulière dans le sud-ouest de la France, d'ailleurs, qui repassera par Roche, entre autres. Pourquoi ? Parce que, justement, alors là, c'est un cas un peu particulier. Ça nous semblait être notre place aussi à défendre cet artiste qui tourne peut-être pas assez en France aussi. Donc là, il y avait quand même quatre villes, Béziers, Albi, Tarbes et Auch, qui se mettaient ensemble pour une tournée de Johan. Et nous, on a trouvé intéressant. Alors, peut-être sur la partie transport, par exemple, etc. Vous voyez, on est quand même à géométrie. On essaie d'analyser au plus fin, si on peut dire, comment on peut aussi être présent avec nos partenaires diffuseurs et programmateurs. Tout ça dans le souci de soutenir les artistes. Et en finalité, d'en faire profiter aussi le public. Joanne Le Guilherme, c'est quand même un grand moment pour le public, je pense, de découvrir son travail.
Et combien d'artistes vous soutenez, alors je ne sais pas si on peut dire par an ou par trois ans, comment ça marche ? C'est au projet ? Comment vous attribuez des sous ?
On n'a pas, justement, la philosophie de l'Ondin, c'est toujours d'essayer d'éviter d'avoir le catalogue prêt, parce qu'autrement, ça serait très simple, on enverrait à tout un chacun les 50 spectacles qu'il faut avoir vus, ça n'aurait aucun intérêt. Ça n'aurait aucun intérêt, il faut affiner l'approche. Donc, vous dire combien d'artistes ont... C'est un peu difficile comme ça, là, j'avoue que j'ai pas les chiffres dans l'ordre. On n'a aucune limitation, simplement il y a un moment où on ne peut pas soutenir tout. Je dirais plutôt à l'inverse. D'un, on n'a aucune vocation à soutenir tout le monde. Deux, on fait des choix, ça c'est clair, on fait des choix artistiques avant tout, avec les critères et un peu les tendances que je rappelais tout à l'heure. Et puis après, Si des fois il y a des moments plus creux, on va, on vient. C'est pas nous qui faisons on est dans l'accompagnement. Des fois on essaie de devancer un peu, enfin devancer, on peut pas devancer l'artiste tant qu'il a rien fait, mais d'être le plus près de sa sortie. Des fois on est un peu après aussi en consolidation, enfin etc. Je peux pas vous donner comme ça, là il me vient pas de chiffres très précis, mais enfin ça fait quand même pas mal d'artistes. Plusieurs centaines quand même, dans l'ensemble des disciplines, hein, je pense, parce que n'oublions jamais qu'on est quand même sur un champ plus vaste. On n'est pas seulement dans le cirque, théâtre, danse, danse contemporaine, les arts de la rue, les arts en milieu public, une partie de la musique, pas tous les champs de la musique. Vous voyez, c'est le jeune public dans la transversalité. Donc ça fait du spectacle. Rappelons qu'en France, on a la chance aussi quand même d'avoir une production très, très, très vivace, très riche, etc. Quoi, voilà.
Là, on est donc à Ciné 32. Vous allez assister dans quelques instants à des présentations de projets de compagnies, de projets qui n'ont pas encore émergé pour la plupart. Votre place là, elle est de donner quelques petites pistes à des compagnies ou de donner un avis direct là, ou d'être juste un observateur?
Ah non, je dis rien, j'écoute beaucoup. Je suis un observateur, mais un observateur actif, au sens où moi, ça m'importe. Voilà où je vais chercher mes informations aussi, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Je rappelle que beaucoup de choses se passent sur notre territoire national. Et pour moi, des moments comme ce matin, ben, ça me permet... Alors, il y a des artistes que je connais. Je les connais soit parce qu'ils ont déjà fait des choses, etc., dans les projets. Mais hop, je me dis, tiens, ça, voilà, ça me permet d'affiner une fois de plus, de simplement de m'informer aussi moi-même et de conforter des choses en disant, tiens, je ne les connais pas, par contre, ça a l'air bien, etc., etc. Donc, on est obligé nous-mêmes, à Londa, vu l'importance de la production globalement, et je ne parle pas qu'en cirque, hein, je rappelle, de s'informer, de récupérer auprès de nos collègues des DRAC, de nos collègues des régions, de nos collègues, etc. Il y a plein de nos partenaires sur le terrain, directeurs de lieux, etc., et directrices de lieux, de l'information, etc., qu'on croise, etc. Donc, une réunion comme ce matin, j'ai assisté il y a deux jours aussi à celle sur les projets étrangers aussi. C'était très intéressant de voir un peu ce qui peut se produire en Europe essentiellement. Beaucoup dans le Nord, par exemple, d'artistes, quoi, ça, qu'on aura l'occasion de voir. Et pour les Français, ben, ça va confirmer des choses. Voilà, je fais mon propre marché, si je puis dire, au titre de l'information. Et pour être prêt aussi. C'est plutôt de se tenir informé et d'avoir quelques échos, parce que c'est des présentations rapides aussi sur ce que va être le projet, quoi, voilà. Alors, il y en a que je reverrai peut-être en réunion, en rendez-vous, parce que j'ai aussi des rendez-vous avec des artistes. On a des rendez-vous avec les programmateurs, personnels, des fois, quelquefois. Mais aussi, on a des rendez-vous avec les artistes. Mais là, je vais écouter, je ne sais pas, il y a peut-être une vingtaine de projets, donc je vais gagner un peu de temps. Puis après, il y en a d'autres que je vais recroiser, d'autres que je ne vais pas les recroiser, mais j'irai voir leur spectacle, etc., etc. Tout est possible, quoi, après. Mais moi, c'est un gain de temps aussi, d'informer, surtout en information, quoi, voilà.
Ici, c'est le carrefour pendant une semaine du cirque international.
Absolument. Bah, c'est vrai que Hoche a trouvé sa place, le festival Circa qui fêtait ses 25 ans, là, hein, bien sûr, il ne faut pas oublier. C'est vrai que depuis quelques années, c'est devenu un moment, un temps, comme on dit, important pour les professionnels français, mais maintenant aussi européens et plus, même quelquefois, de passer, de se retrouver. À l'occasion du festival, voilà, à la fois évidemment de voir des spectacles, mais on sait très bien que s'organise tout un tas de réunions, des réunions soit de petits noyaux sur une production de tel ou tel spectacle, soit des collectifs d'artistes, soit des regroupements de programmateurs comme Territoire de Cirque, etc., comme d'autres, la présence d'Or les Murs, la présence de l'Institut français, enfin tout le monde est là, donc Londa ben, est là, dans la grande famille du spectacle et particulièrement la Hoche du Cirque. Quoi. Voilà.
Londa aide-t-elle des compagnies étrangères? J'ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a un critère de nationalité des compagnies pour être soutenue?
Ah non, absolument pas. Une compagnie étrangère qui vient en France, si, toujours pareil, si nous estimons que son travail est intéressant pour diverses raisons, peut, dans un lieu, recevoir une aide de Londa. Nous ne pouvons pas, pour le moment, aider une compagnie. compagnie française qui jouerait même en Belgique, ça, on n'a aucune manière de l'aider. Enfin, on ne peut pas aider le lieu belge, toujours. Mais un lieu français accueillant une équipe tchèque, une équipe brésilienne, si nous, on connaît le travail et qu'on estime que c'est important, on peut tout à fait... On n'a pas de blocage à ce niveau-là, quoi. Voilà. Par contre, pour les compagnies françaises, on participe, ça c'est surtout le rôle de l'Institut, à l'exportation. Nous, on essaie aussi de... Parce que les réseaux européens, on y est aussi dedans, mais on n'a pas de possibilité d'aide directe, là encore, pour aider une compagnie à partir à l'étranger, quoi. Voilà. Mais on fait savoir aussi par nos propres, par les festivals existants droite à gauche, par les réseaux qu'on a nous-mêmes sur l'étranger, qui sont d'ailleurs, il n'y a pas 36 réseaux en même temps, de faire découvrir tel ou tel artiste, etc. Voilà. Mais on n'a pas d'aide financière possible, quoi.
Ici, donc, Festival Circa, festival du cirque actuel. Vous êtes un observateur attentif de cette discipline-là, de cet art-là. Comment vous pourriez qualifier cet art-là? Et j'ai l'impression qu'il est en plein développement, en plein bouillonnement, et ça depuis de nombreuses années. Vous, quel est votre sentiment là-dessus?
Ben, c'est exact. C'est vrai que le cirque, alors qui n'est pas une discipline qui est récente, enfin ce qu'on appelle le cirque contemporain relativement récente finalement, parce que ça date des années, fin des années 80, début des années 90, enfin le développement j'entends, est une discipline en soi, enfin qui était plutôt dans ses origines équestres d'ailleurs. Mais bon, à ce jour, c'est vrai que le constat que nous pouvons faire, c'est que le cirque a trouvé sa place quasiment dans, je ne dirais pas tous les lieux, j'en sais rien, mais de manière très majoritaire dans une programmation d'un lieu, des plus gros aux plus petits, pour faire vite. Ça, c'est vrai. Après, c'est pas le tout de faire de la diffusion. Tout n'est pas de la même qualité artistique, de la même exigence, etc. Mais c'est vrai que le cirque a été relativement de manière assez rapide en termes de temps à trouver cette place-là. Alors, c'est vrai que... Donc, évidemment, nous, on suit l'évolution de cette discipline. Et puis, on a été... Alors, on en parlait hier encore. Il y a aussi la notion du cirque sous le chapiteau, qu'il ne faut pas oublier, quoi. En attendant, malgré les crises et les difficultés, on constatait que beaucoup de projets cette saison, enfin, de la saison dernière et qui tournent cette saison et qui vont sortir, il y a beaucoup de projets sous le chapiteau, qui est quand même un peu l'origine aussi du cirque, le cercle, etc. On a vu effectivement la tendance à un moment où le cirque allait s'installer beaucoup dans les salles, dans le frontal, hein, et avec de très belles choses, le problème n'est pas là. Mais là, je ne dis pas qu'il y a un retour, je ne sais pas s'il y a un retour, mais il y a une constante, malgré les difficultés, malgré les lourdeurs quelquefois de la maison chapiteau, parce que c'est quand même pas simple pour les équipes, il y a beaucoup de projets qui sortent sous cette forme-là. Voilà. Il y a une vitalité, c'est indéniable. On le voit bien, beaucoup de monde. On voit bien à Auch, beaucoup de monde dans les salles. Ça marche. Après, il faut toujours ne pas baisser la garde, je veux dire, au sens où une discipline, eh bien, il faut qu'elle soit un peu aiguillonnée comme ça pour garder toujours son acuité et rester quelque chose de pas vivre sur ses acquis et de se renouveler. D'où, c'est pour ça que c'est toujours important, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, on est quand même bien. On a une école nationale, on a d'autres écoles qui forment, etc. On a quand même un terrain très très important, formation d'interprètes, etc., etc. Voilà. Mais ne nous endormons jamais sur les lauriers, comme on dit. C'est valable pour toutes les disciplines. Mais le cirque a été très vite dans son histoire, le cirque contemporain, j'entends. Donc, mais il faut maintenir comme ça il faut être en aiguillon tout le temps, mais les artistes le feront très bien. Nous, on ne peut être que des observateurs et essayer d'être avec eux, quoi, ce qu'on essaie de faire au quotidien, pour ce qui nous concerne. Quoi, voilà.
Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec le théâtre? Une comparaison sur le dynamisme et la diversité des formes.
Alors, oui, bah, vous l'avez... Enfin, une comparaison, c'est difficile, parce que le théâtre, c'est quand même une histoire plus ancienne. Et puis, il y a l'histoire du texte dans le théâtre. Il y a le texte, pas le texte. Chaque fois, c'est un vaste débat où non, je ne ferai pas de comparaison, parce que chaque discipline a son propre parcours. Non, quand je dis que le cirque doit rester comme ça un peu, il faut que ça pousse un peu. On est plutôt dans des époques aussi où il y a des transversalités qui s'opèrent aussi. Voilà, il faut. Et quand je dis qu'il ne faut pas s'endormir, parce que le cirque a sa propre difficulté, si on peut dire entre guillemets en interne, c'est qu'il bénéficie d'un a priori favorable, comme ça dans un grand public. Hein, j'entends quand vous dites cirque, alors si vous dites théâtre, des fois, ou danse, ils vont dire oh là là, ça va me prendre la tête, parce que des fois un peu idiot, parce qu'il faut aller voir. Par contre, le cirque bénéficie effectivement d'une approche, comme ça, là je parle surtout du public, plutôt favorable. Mais pour autant, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maintenir une exigence artistique dans les projets. Quoi, voilà. Gardons, tant mieux, si les gens ont envie d'aller au cirque. Mais je pense que des fois aussi, il y a une légère confusion, parce que le cirque, dans l'imaginaire d'un public, quelquefois, c'est aussi, de manière plus générale, ça peut être les animaux, ça peut être tout ce qu'on veut, et ça existe. Alors quelquefois, il y a des surprises, d'ailleurs. Le public peut être un peu surpris. Tant mieux. Mais voilà. Mais il y a quand même un a priori, comme ça. On dit, bon, bah, c'est du cirque, c'est bon, c'est pour moi. Si vous faites pareil, vous parlez d'un artiste de danse contemporaine, c'est pas sûr que les gens réagissent de la même manière. Mais pour autant, il faut faire attention aussi. Il voilà, faut maintenir ce que j'appelle cette vigilance artistique. Mais je fais confiance aux acteurs, aux acteurs au sens aux artistes-interprètes. Quoi, voilà.
Jean-Paul Pérez, pour terminer, peut-être dire que l'ONDA, c'est une association parapublique soutenue par le ministère de la Culture. Aurélie Filippetti, qui est venue ici inaugurer le cirque, a de grandes ambitions pour le spectacle vivant. Je crois que ça va vous conforter.
Ben j'espère parce que nous on est un organisme, donc, comme vous le disiez, parapublique, c'est-à-dire qui existe depuis 1975. Vous imaginez bien que depuis 1975, le paysage a changé. Là, c'est vrai qu'on est à un moment, on dit toujours ce qu'on est à la fin d'un cycle, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout état de cause, c'est vrai que nous attendons, j'espère, que la nouvelle équipe gouvernementale apportera un peu d'air, et c'est plutôt dans les tuyaux, au spectacle vivant, qui a besoin, qui est toujours une discipline quand même très fragile et très éphémère. Et a besoin d'être conforté, quoi. Donc on va attendre. Là, c'est encore les sons venir. Mais je pense que j'espère fortement, mais je pense qu'il va se passer des choses. On sait bien qu'on est dans une période de crise. On va pas. Il s'agit pas de pleurer pour pleurer, mais il faut juste permettre quand même aux artistes d'être là, pour exercer leur travail, leur métier, dans les meilleures conditions possibles. Alors, en France. On n'est pas les plus mal lotis, forcément, parce que de l'argent public, globalement, il y en a. Voilà, mais c'est vrai qu'on est dans des périodes un peu difficiles économiquement. Mais je pense qu'on. Voilà, soyons optimistes, et je le suis, pour le spectacle vivant.
Ben, restons optimistes, donc. Et puis, merci de nous avoir consacré quelques minutes, Jean-Paul Pérez, et bonne réunion.
Merci, et bonne fin de festival à tout le monde.
Voilà, c'était Jean-Paul Pérez de Londa, que vous avez entendu tout avant la chanson. Maintenant, nos invités prochains ne vont pas tarder. Il y aura donc l'école Vertigo de Turin, d'Italie, et la Fédération suisse des écoles de cirque. Dans cette prochaine heure de direct, vous pouvez aller dans l'espace vert du cirque à 13h30. Écoutez l'aubade de Circa Tsuika avec ce merveilleux soleil. Ça peut être un moment très très chouette avec la fanfare Circa Tsuika. Et tout de suite, une petite page musicale en attendant de retrouver nos invités.